pourquoi choisir autre chose quand vous pouvez choisir Viagra Original? Surtout qu'il est toujours offert à prix réduit. Alors ne vous gênez pas, demandez Viagra Original.
Ça sera au tour de l'Angleterre de voir le Grand Prix s'y arrêter ce week-end après un vent de fraîcheur du côté de l'Autriche avec les jeunes Verstappen et Leclerc. Est-ce que ce même vent soufflera du côté de Silverstone? On en parle avec notre collaborateur F1, Alex Tagliani, qui est avec nous. Salut Alex!
Hey, salut Rémi, comment tu vas?
Ça va super bien. Alex, je l'ai dit d'entrée de jeu, on a été surpris quand même. C'était un vent de fraîcheur du côté de l'Autriche lors du dernier Grand Prix. Verstappen et Leclerc qui ont été premier et deuxième. Penses-tu qu'on est capable de répéter tout ça du côté de Silverstone?
Écoute, je pense pas qu'il faut qu'on s'accroche au rideau encore. Je pense que la piste s'apportait pour les voitures Red Bull. C'est une piste assez unique. Et puis, il faisait extrêmement chaud. La plupart des voitures ont fini la course avec des pneus blancs, qui sont les pneus les plus durs, et ce qui était vraiment bon pour la Red Bull, parce que c'est une voiture qui a beaucoup d'appui aérodynamique. Mais, comme je l'ai dit, la course a été incroyable. Moi, j'ai vraiment aimé le spectacle que Verstappen a donné, mais je pense pas qu'on va revoir ça ce week-end. C'est une piste, Silverstone, c'est une piste où les voitures sont à fond longtemps. Donc, ça privilégie un peu les voitures Ferrari. Et j'espère qu'ils vont être capables de donner un peu de fil à retordre aux voitures Mercedes, parce que ça va nous prendre un peu de spectacle, puis ça va nous prendre une bataille au championnat assez vite, parce que sinon, Lewis va s'envoler avec.
Ouais. Parce que si on regarde Mercedes, là, écoute, il était un peu trop fort pour la Ligue. Bottas a été rapide, Hamilton rapide. Évidemment, on est à domicile du côté de Mercedes. Penses-tu vraiment qu'il y a des voitures qui peuvent compétitionner contre les deux bolides de Bottas et Hamilton?
Je pense que oui. Je pense que à la pratique 1, pratique 2, les voitures ont plein de sensors, ont des lasers. Ils ont à peu près 20 à 25 livres de bébelles sur la voiture.
Non, mais attends, Alex, là, je t'arrête. Là, tu me donnes du détail technique. Je veux comprendre. Tu me dis quoi? Il y a plein de sensors, il y a des lasers. Explique-moi, c'est quoi ces affaires-là?
En pratique, le vendredi, la série donne l'opportunité aux équipes d'avoir un paquet de sensors sur la voiture. Donc, il y a des lasers sous les voitures qui te donnent des data sur la hauteur de la caisse, au sol, à différents endroits sur la piste. On a aussi des systèmes qui s'appellent des pitot tubes. Ce sont des tubes qui prennent la vitesse du vent pour donner des pointes d'information sur l'équilibre de l'aérodynamisme de la voiture. Et tous ces sensors-là, ces pièces-là, doivent être retirées plus tard dans le week-end. Alors, les voitures, on n'a pas vraiment... Encore une fois, dans les premières deux pratiques, vraiment la vraie vitesse des voitures. En FP3, là, on va vraiment voir où les voitures se situent, parce qu'il y a beaucoup de tests qui se font avec les voitures, avec tous ces sensors-là, qui donnent énormément de données aux équipes de Formule 1, et ces données-là s'en vont soit en Italie pour Ferrari, soit à Londres pour Mercedes. Et tu as tout un autre staff, une autre équipe de 50 à 60 personnes qui travaillent sur les voitures pendant que les voitures sont dans les garages, dépendamment du circuit où ils sont.
Okay.
Donc, c'est vraiment plus en FP3 qu'on va avoir une idée de la performance de toutes les voitures.
Dis-moi, est-ce que la télémétrie qu'on va chercher, est-ce que ces éléments-là, les data qu'on va chercher, est-ce que ça peut être extrêmement modifié comparativement au dimanche quand il y a la course?
Ben, les datas que les équipes ont, c'est vraiment important, parce que, je te donne un exemple, si toi tu es assis dans la voiture, c'est toi qui pilotes l'auto. Et puis, tu dis la voiture glisse du devant, j'ai de la misère à mettre de la traction à terre, l'auto est instable dans les virages rapides, tu donnes un bon feedback, mais les ingénieurs maintenant de piste, ceux qui sont là avec toi au circuit, vont devoir faire des changements. Une fois que la pratique 1 est terminée, ben, tu peux pas réessayer la voiture jusqu'à temps que la pratique 2 arrive. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les données, ils envoient ces données-là vraiment importantes à une autre équipe qui est à l'usine, et là, ils ont un pilote d'essai qui est sur le simulateur, et ils prennent la piste de Silverstone.
Ah oui.
Et là, le pilote du simulateur conduit la voiture avec les réglages, avec les données qu'ils ont ramassées de la pratique 1, et là, ils travaillent entre les pratiques pour arriver avec des conclusions. Et l'équipe qui est à l'usine appelle les ingénieurs qui sont à la piste, envoient leurs suggestions par informatique et l'équipe de piste va mettre en pratique ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont essayé, ce qu'ils ont roulé à l'usine dans la pratique numéro 2. Et c'est vraiment en pratique 3 que là, le scénario se montre vraiment où à peu près la performance des voitures va se situer.
Wow, intéressant de savoir qu'on travaille à ce point-là entre les pratiques disponibles pour les écuries lors du Grand Prix, dans des différents Grands Prix. Maintenant, Alex, je veux savoir une chose. Dans les pratiques, tu me dis 1 et 2, c'est comme un laboratoire plutôt qu'une voiture qui est sur la piste. Il y a tellement eu de sorties de piste, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà conduit à Silverstone et comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de maîtriser les bolides comme ça?
Écoute, non, j'ai jamais conduit à Silverstone. J'ai conduit sur quelques pistes de Formule 1 en Europe, comme particulièrement la piste de Monza. J'ai conduit à Shanghai aussi. Mais je te dirais que les pilotes poussent énormément les voitures parce que, justement, c'est vraiment en pratique où tu peux aller au-dessus de la limite de l'auto puis montrer sur les données et à tes ingénieurs où est-ce que la limite se trouve. Donc, si tu vas jamais flirter avec la limite, puis tu poses jamais la voiture au-dessus de la limite, quitte à faire une erreur, quitte à faire une excursion dans le gazon, quitte à te retrouver dans le bac à gravier, toi-même et ton équipe, on ne connaissait pas la limite de la voiture. Donc, si tu essayes de faire ça en qualif, c'est vraiment pas le moment. Il faut vraiment connaître où la limite s'arrête en pratique. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des voitures en sortie de piste et puis faire des erreurs parce que les gars poussent plus que la limite.
Alex, évidemment, c'est fort intéressant tes propos. On va parler d'un côté qui est sportif, course automobile, mais qui a peut-être un côté que je comprends pas. Il y a Lewis Hamilton qui se plaint présentement parce qu'il dit, écoutez, on est du côté du Grand Prix d'Angleterre, on est à Silverstone, on est à domicile, puis en plus, en même temps, il y a la finale de Wimbledon, puis je pense qu'il y a un championnat mondial de cricket en même temps. Il est un peu déçu de pas avoir les projecteurs sur lui. Qu'est-ce que tu penses d'Hamilton?
Écoute, je respecte ses propos. Je pense que d'un certain point, il veut protéger les intérêts de la F1. Donc, des fois, dans un meilleur des mondes, ça serait fantastique que les promoteurs, les différentes séries se parlent pour pas avoir des conflits. Quand on regarde un peu ce qui arrive autour des 500 000 d'Indianapolis, NASCAR, Formule 1, tu sais, il y a un élément où est-ce que tu as la course de Monaco, mais la course de Indianapolis essaie de se protéger au maximum pour pas avoir de conflit avec NASCAR, parce que ça serait vraiment stupide d'avoir une course de NASCAR en même temps que les 500 000 d'Indianapolis. Mais quand on parle d'entités sportives différentes que le sport motorisé, comme par exemple le tennis, tu peux pas vraiment obliger ou tu peux pas continuer à essayer de vouloir avoir juste les projecteurs sur toi, parce que malheureusement, c'est une autre entité sportive qui fait sa propre cédule dépendamment à leurs intérêts à eux. Je pense pas que durant l'hiver, les gens de tennis parlent avec les gens de la F1 pour dire on va pas avoir une compétition pendant que vous êtes à Abu Dhabi ou quand vous êtes sur la piste de Texas aux États-Unis. Tout le monde fait son possible. C'est deux entités sportives complètement différentes, un sport complètement différent. C'est sûr que ça donne mal parce que c'est en Angleterre. Puis ça serait fantastique d'avoir soit les yeux rivés sur le Wimbledon ou soit rivés sur Silverstone. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Puis mais je trouve que Lewis prêche pour sa paroisse puis essaie de protéger la F1. Donc je respecte ses propos.
Ouais, mais tu sais, Lewis Hamilton, c'est Lewis Hamilton. Il y a toujours des bébites des fois comme conducteur. Écoute, quand je dis bébite conducteur, le nom de Paul Tracy me vient en tête. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose, toi, Alex Tagliani, Paul Tracy.
Hey, c'est drôle que tu me dises ça. Le monde va penser qu'on se parle avant, mais on s'est pas parlé. Hier, je sors du restaurant. Qui que je vois à Toronto, parce que Paul travaille pour NBC Sports, Paul Tracy. Écoute, la grosse accolade.
Ah oui?
Autant qu'il y a eu des flamèches en piste avec certaines situations, on a quand même un grand respect un pour l'autre. Ça a été une belle surprise de le voir rentrer au resto. Puis j'ai recroisé souvent bien les pilotes. Puis c'est toujours facile de parler de nos histoires puis de nos souvenirs passés. Et même en fin de semaine, je suis stationné à côté de Scott Dixon, donc ça me donne la chance de passer peut-être avec mon ami, parce que je le vois pas souvent. Ouais. Mais la croiser Paul, c'était spécial. Fait que oui, on a eu des flamèches, mais c'était bon pour le sport au Canada.
Ah oui, mais tu sais, juste rappeler pour les auditeurs qui sont pas au courant, tu as eu une prise de bec avec Paul Tracy. Écoute, je me souviens, c'était un coup de cash, je pense. Il avait donné un coup de cash, c'est après, là. T'as engagé le combat, là, c'est ça?
On était en course, on roulait en troisième position derrière Paul. Paul fait une erreur, il va dans un échappatoire, il fait un demi-tour avec la voiture, puis il ressort de l'échappatoire en sens inverse. Puis là, il nous T-bone la voiture, donc ça nous met hors course. Voiture endommagée, plusieurs centaines de milliers de dollars. Évidemment, j'amenais beaucoup d'argent dans ce temps-là quand j'allais aux courses, donc c'était pas une situation dans laquelle j'aimais me retrouver. Donc, j'étais extrêmement fâché. Fait que je reviens, tu sais, à pied au travers les puits. Paul s'en vient vers moi. Les caméras savent que Paul Tracy est en chemin vers moi. Moi, je suis en chemin vers lui. Nous, on le sait pas, mais les caméras nous ont spotés. Et puis là, ils nous ont suivis. Et moi, j'avais gardé mon casque sur la tête. Écoute, Paul avait comme un bon 50 livres sur moi, là. Alors, ça, c'était une bonne décision. Et quand il y a eu la prise de bec dans les en arrière des puits, il a comme tombé sur moi. Puis il s'est accroché dans mon casque, puis ça l'a coupé. Et quand il s'est relevé, il saignait. Donc, ça avait l'air vraiment que j'avais eu le dessus. mais finalement, dans un ring de UFC, pas de casque, j'aurais pas fait le poids. Je n'étais pas vraiment dans la même ligue.
Aïe, aïe, aïe. Alex Taglioni, écoute, c'était des belles années, c'est sûr et certain. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous. Toujours un plaisir de jaser F1 avec toi. Merci beaucoup, Alex.
Hey, t'es bien fin. Salut, Jérémy.
Pourquoi choisir autre chose quand vous pouvez choisir Viagra Original? Surtout qu'il est toujours offert à prix réduit. Alors ne vous gênez pas, demandez Viagra Original.
On s'arrête quelques instants et au retour, les Alouettes affronteront demain le Rouge et Noir à Ottawa. Est-ce que la dernière victoire face à Hamilton est présage de succès pour le reste de la saison ou bien un simple écran de fumée menant vers une autre exclusion des séries? Si tel est le cas, n'en parlez pas au retourneur des bottés des Alouettes, Stephen Logan, ça pourrait mal se terminer. Tous les détails au retour avec Bruno Eppel.